Tamani, toute la voix du Mali.
Studio Tamani, voici les informations en français.
17h à Sikasso, chers auditeurs, bonsoir, les titres de ce journal. Un comité a désormais la charge de gérer les fonds de taxes sur les communications et les paiements mobiles. Le président de la transition a signé le décret hier. Le Mali a reçu près d'un million de doses de vaccins antipaludiques grâce au soutien financier de l'UNICEF et de Gavi. Ces vaccins représentent une avancée majeure dans la lutte contre le paludisme. L'embouteillage durant ce ramadan est un casse-tête pour des usagers à Bamako. Ils demandent aux autorités de fluidifier la circulation. Le développement de ce titre, c'est avec Idrissa Sako. Sédou Daou assure la technique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la transition a pris un décret fixant l'organisation et le fonctionnement d'un fonds pour la réalisation d'infrastructures énergétiques, hydrauliques et de transport. Les recettes de ce fonds seront versées dans un compte du Trésor public. Un comité de pilotage en assurera l'administration et la gestion. Cette taxation sur les frais de télécommunications et mobile monnaie a été critiquée par de nombreux partis politiques. Le point avec Mamadou Samasekou.
Le ministre des Finances est le principal ordonnateur de ce fonds. Le comité créé a pour mission de définir les orientations stratégiques du fonds, d'approuver son budget et d'en assurer le suivi. D'autres ministères, notamment ceux des mines, de l'énergie et de l'eau, des transports et des infrastructures, des collectivités territoriales sont représentés au sein de ce comité. Dans son article 8, le document souligne que chaque année, le comité doit soumettre son rapport annuel d'activité et de gestion du fonds au président de la République avant le 30 juin. L'article 11 désigne le payeur général du trésor comme le comptable responsable de ce fonds. En cette qualité, il établit un compte de gestion des fonds à la fin de chaque exercice budgétaire. La taxation des communications téléphoniques et des transferts d'argent par téléphone mobile est entrée en vigueur le 5 mars 2025. Elle consiste à prélever 10% après chaque recharge téléphonique et 1% sur les frais de paiement mobile.
De leur côté, le M5-RFP Malikoura et le parti Yilema ont conjointement dénoncé cette nouvelle taxation. Ils la qualifient de mesure injuste qui spolie davantage les populations déjà éprouvées. Ils exigent l'abrogation de l'ordonnance du dit décret. Youssouf Diawara, président du parti Yilema, est au micro de Mamadou Samasekou.
Nous sommes du principe que l'exemplarité légitime toutes les exigences. Dans cet ordre d'idées, et depuis toujours, nous avons demandé une réduction drastique du train de vie de l'État, surtout dans une situation d'exception. Nous demandons au gouvernement de passer par d'autres sources de financement, de ces infrastructures, bien sûr. On pourrait, entre autres, citer la renonciation aux indemnités supplémentaires et aux fonds spéciaux qui sont aujourd'hui alloués ça et là auprès de beaucoup de nos institutions. Nous rappelons aussi que sur un des chantiers cruciaux qu'est l'électricité aujourd'hui, notre proposition a toujours été de rétablir nos partenariats avec nos voisins pour nous permettre de sortir de cette crise avec les honneurs et sans trop de souffrance pour nos concitoyens.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et notre compte X. Mardi soir, 12 mars 2025, des hommes armés non identifiés à moto ont donné un ultimatum aux habitants de Fatakara, un village situé à 12 km au nord-ouest de Gundam, de l'évacuer avant le lendemain matin à 7 heures. Le village s'est vidé de ses habitants, femmes, enfants, personnes âgées et femmes enceintes qui ont tout laissé derrière eux. Selon le maire, environ 4500 personnes ont été déplacées. Les autorités leur ont apporté une assistance psychologique et alimentaire et la population locale a fait des dons. Cependant, les déplacés ne veulent retourner chez eux que si la sécurité est assurée dans la zone. Ils lancent un appel urgent aux autorités. Cela dit, le Mali a reçu près d'un million de doses de vaccins contre le paludisme. L'UNICEF a facilité cet envoi avec le soutien financier de Gavi. Ce vaccin vise à protéger les enfants et à réduire l'impact du paludisme, l'une des principales causes du décès chez les nourrissons et les jeunes enfants dans la région. Plus de détails avec Adama Amadou Aïdara.
Le vaccin contre le paludisme sera introduit en avril 2025 dans 19 districts prioritaires de 5 régions maliennes. Il s'agit de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Le vaccin est destiné aux enfants de 5 à 36 mois. Il sera administré en 5 doses. 3 doses à intervalles d'au moins 4 semaines, suivi de 2 doses supplémentaires, idéalement administrées chaque année en mai ou juin, avant la saison de transmission intense du paludisme. Selon l'UNICEF, bien que ce vaccin représente une avancée majeure, il ne constitue pas une solution unique. Il complète les mesures de prévention déjà mises en place, notamment le traitement préventif intermittent pendant la grossesse et la pulvérisation interdomiciliaire d'insecticides. À noter que le paludisme reste une menace majeure au Mali, avec une prévalence nationale de 19% en 2021 et plus de 3,4 millions de cas confirmés en 2024.
Maintenant, cap sur Kidal, où les enseignants sont sommés de regagner leur poste. Il s'agit de ceux qui ont abandonné leur poste. Ils ont jusqu'au 27 mars 2025 à 7h30 pour les rejoindre. Le directeur de l'Académie d'enseignement de Kidal a publié un communiqué mercredi 12 mars 2025 pour lancer cet appel. Il précise que, passé ce délai, les sanctions prévues par la réglementation en vigueur seront appliquées. Les embouteillages à Bamako en ce mois de Ramadan, un embouteillage intense se forme à l'approche de la rupture du jeûne. Les visages reflètent la tension, le stress, la frustration et le désir de rentrer rapidement chez soi. Ces usagers, pressés d'arriver pour la rupture du jeûne, demandent aux autorités de trouver des moyens de fluidifier la circulation. Les détails avec Imran Akilumega.
À 17h30, nous avons garé notre engin pour observer l'état d'esprit des usagers sur cette route. La traversée du troisième pont de Bamako est devenue un véritable défi pour ces usagers.
La deuxième fois comme ça, depuis le début de la semaine, que j'ai fait la rupture en cours de route. Depuis 16h30, la descente, j'ai quitté le bureau. À présent, je n'ai même pas traversé le fleuve.
La police est là pour orienter quand même la circulation.
C'est vraiment dérangeant.
Bien que les heures de descente du travail aient été revues par les structures publiques et privées, certains usagers du troisième pont pensent que la construction d'échangeurs pourrait être une solution. D'autres sont pessimistes et ne voient pas de solution à ces embouteillages monstres.
Vraiment, la solution est certainement très difficile. Pour être honnête, je ne sais même pas.
En tout cas, pour le moment, moi, je ne vois pas de solution. Hein, parce qu'on ne peut pas agrandir la route. Bon, il faut le bon comportement des chauffeurs pour qu'on puisse joindre les deux bouts.
En attendant une réponse claire des autorités routières, les usagers font preuve de patience et anticipent les heures de pointe.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondello Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Donc, c'était un papier signé Imran Akilumaïga avec la voix de Lala Touré. Cela dit, nous allons vous proposer cette brève qui nous vient de tomber tout à l'heure. Docteur Patrice Motsepe a obtenu un second mandat de 4 ans à la tête de la Confédération africaine de football. Cette décision a été confirmée mercredi lors de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la CAF au Caire. Sa réélection fait suite à un premier mandat remarqué pour avoir redressé les finances de la CAF et accru son influence mondiale. Par ailleurs, l'ex-footballeur camerounais Samuel Eto'o a rejoint le comité exécutif de l'organisation. Notre dossier de la semaine s'intéresse à l'intégration de la nouvelle mariée au sein des grandes familles. Si certaines nouvelles mariées arrivent facilement à s'intégrer dans leur belle famille, d'autres ont du mal à joindre les deux bouts et parfois elles sont traitées de mauvaises personnes selon des témoignages. Comment faciliter l'intégration des nouvelles mariées? Un dossier signé Lale Tangara.
C'est l'éducation de la belle-fille qui facilite son intégration dans sa belle famille. C'est ce que pensent de nombreuses personnes qui ont donné leur avis à Bamako et à Kadjoulo.
Aux nouvelles mariées, d'adopter des comportements honorables et de se montrer patientes, qu'elles respectent leur belle famille.
Les difficultés font partie de la vie, mais à toi de les résoudre en t'adaptant au comportement de chaque membre de la famille.
Qu'elles respectent leurs beaux-parents en les considérant comme les leurs.
C'est l'entente totale entre mes belles-filles et moi. Notre relation est basée sur le respect. C'est le témoignage de Mme Fofana Malassa Traoré, âgée de plus de 70 ans. Elle est de Kolokani. Actuellement, elle a 7 belles-filles. Elle donne plus de détails sur le secret de leur entente.
Entre mes belles-filles et moi, il y a l'entente totale. Depuis leur arrivée, elles ne font rien à mon encontre. Quand les nouvelles mariées arrivent, je les conseille de se joindre aux autres, car quand on est seul, on n'y peut rien. Elles sont solidaires.
Mohamed Ben Sherif Diabaté est traditionnaliste à Bamako. Selon lui, le secret d'une bonne intégration de la belle fille réside dans le respect et l'apprentissage des valeurs de l'autre avant le mariage.
Il faut voir d'abord la base de l'éducation de la personne. Et dans le mariage, est-ce que les deux couples, est-ce qu'ils sont d'abord à la bonne force? Est-ce que les caractères sont compatibles? Voici des éléments qu'il faut vraiment d'abord connaître. S'ils n'ont pas fait ça, mais ils tombent justement durs dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas bien, et donc la vie va être difficile.
Le mariage ne s'improvise pas. Il demande une longue préparation. Cette affirmation est du docteur Moussa Cissé, sociologue. Il pense aussi que l'éducation diffère d'une maison à une autre. À cet effet, la belle-fille doit se plier pour répondre aux attentes de sa belle-famille.
Et aujourd'hui, tout le conflit est qu'il y a choc de deux types d'éducation. Dans nos familles, l'éducation est traditionnelle. Et aujourd'hui, la modernité aussi impose l'individualisme. Aujourd'hui, les jeunes filles veulent aller vers la modernité, c'est-à-dire la famille réduite. Alors, la grande famille est fondée sur la solidarité.
Nos interlocuteurs sont unanimes. Pour un mariage réussi, il ne suffit pas de s'aimer seulement. Il faut également se faire accepter dans sa belle famille par ses valeurs et son éducation.
Voilà, c'est tout pour ce soir. Juste après le magazine qui va suivre, vous aurez votre grand dialogue avec Imrana Kilou Maïga. Imrana Kilou, bonsoir. Dites-nous le thème de ce débat, le débat de ce soir.
Bonsoir Idrissa Sako. Ce soir, nous allons parler de la journée des consommateurs entre droits et devoirs. Et nous serons avec Dr Oumar Traoré, vice-président du regroupement pour la défense des consommateurs du Mali et de Koma, Dr Seydou Kanté, spécialiste en droit, et Dr Abdoulaye Intigui Konaré, économiste à l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako.
Bien, cela dit, je vous propose le magazine Tous les enfants du Mali qui fait un focus sur l'absence des élèves au cours dans les écoles publiques. Ils sont nombreux à traîner dehors ou à former leurs grains à côté des établissements pendant que les autres sont en classe. Pourquoi ces élèves chôment-ils les cours? Suivons ce magazine réalisé par Moussa Malé Sissoko avec le soutien de nos correspondants.
L'éducation des élèves est l'un des facteurs les plus importants dans la vie sociale et scolaire autrefois. Des élèves faisaient preuve d'assiduité dans les classes. Cependant, de nos jours, ils sont nombreux à adopter des comportements déviants dans ce lieu du donner et du recevoir. Ces écoliers qui se font rares en cours donnent leur raison.
Nous sommes venus à l'état, je suis bien à refuser que nous rentrions en classe.
Nous habitons loin de l'école.
Nous n'aimons pas les études, mais nous venons à l'école parce que nos parents nous y obligent.
Nous voudrons rentrer en classe, hein, mais l'administration est intransigeante sur le port de la tête.
Le désintérêt pour certaines matières est l'une des raisons qu'avancent ces élèves de Kaï, Yoroso, Ségou et Mopti pour justifier leur absence aux heures des cours.
Anglais de cours.
Je ne suis pas en classe car je n'aime pas les cours d'anglais.
Philo, anglais. Je chôme ces deux matières-là parce que je n'aime pas. Simplement. Je viens m'amuser à la maison seulement.
Je somme des cours de maths et physique chimie.
Mathieu Konaté est l'un des directeurs au groupe scolaire Monzon Traoré à Amdalaï. Il confirme des cas dans son établissement.
Ils sont derrière la cour, souvent sur les murs de l'école. Donc il y a beaucoup de cas ici. Ils abandonnent le cours. Maintenant, ils sont dans le nid du marico là, avec les délinquants. Ils passent la journée là-bas. Ils ne rentrent pas en classe. Donc ça, c'est le devoir des parents. Ils ne portent pas la tenue. La tenue est dans le sac. C'est pour cela qu'on ne les reconnaît pas.
Cependant, certaines écoles ont mis en place des stratégies afin que ces élèves soient réguliers en classe. Madame Diara Fanta Mariko, directrice de l'école Aminata Diop 7 de Lafiabougou Bamako.
On essaye de conseiller ces élèves-là. Si ça ne va pas, on donne des convocations, on appelle les parents maintenant pour gérer ensemble. Bon, dans ces dernières années, il y a une association qu'on appelle le Sigida Lakanaton. Et ils travaillent avec les policiers. Ils sont là tous les jours pratiquement. Ces jeunes-là viennent très souvent à l'école ici pour ramasser ces élèves-là. On les ramène à la direction, on appelle les parents. Comme ça, on gère ensemble.
Des parents, quant à eux, mettent toute la charge sur les responsables scolaires et les enseignants qui n'arrivent pas à maintenir leur progéniture dans les classes.
Moi, personnellement, non. L'enfant peut faire beaucoup de temps sans aller à l'école et pourtant, le maître est toujours en classe. Or, chaque rentrée, on constate les absents, les présents.
Nous, parents d'élèves, nous devons nous remettre en cause. Faisons de nos enfants notre priorité.
Les enseignants ne sont pas les seuls fautifs. Nous avons notre part de responsabilité.
Chaque mois, j'ai fait un tour à l'école de mes enfants.
Pour Dr Seydou Loa, ce phénomène n'est pas imputable aux parents si les élèves chômeurs font leur grain à côté de l'école. Selon le pédagogue, la synergie d'action des parents et des responsables scolaires peut résoudre ce problème.
Les écoles fondamentales qui ont la responsabilité de faire la ronde de temps en temps dans la cour de l'établissement pour voir s'il y a des élèves qui traînent dans la cour de l'école ou à côté de l'établissement pendant les heures de cours. Donc vraiment, si les élèves restent dans la cour de l'école pendant les heures de cours, ça, on peut dire que ça relève de la responsabilité de l'école. Mais un élève qui est bien suivi à la maison par les parents peut effectivement être détecté par ses parents si toutefois il se met à chômer.
Au regard de la situation de l'école malienne, il faut l'implication de toutes les couches sociopolitiques du pays. Car l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde, disait Nelson Mandela.